بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. On a lu ce soir le 17e juz. Et dans le 17e juz, il y a la sourate Al-Hajj. Il y a juste avant la sourate Al-Anbiya. Et dans la sourate Al-Anbiya, il y a bien sûr, comme son nom l'indique, Al-Anbiya, pluriel de Nabi. Il y a l'histoire de la plupart des prophètes, alayhim salat wa salam, cités donc dans les versets de façon assez concise. On a par exemple l'histoire de Ayyub alayhi salam, qui n'est pas beaucoup détaillée, qu'on retrouvera peut-être d'autres versets dans d'autres passages, mais il y a mention de la plupart des grands prophètes qu'Allah a envoyés sur ce dunya et certaines de leurs invocations, les doa'as qu'ils avaient demandé à Allah Azza wa Jal, et comment est-ce qu'Allah Rabbul Izza a exaucé le doa'a. Et le doa'a de Ayyub alayhi salam, c'était ajib. Ayyub wa Ayyub idhna da rabbahu anni massan yadurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lah. Jusqu'à la fin du verset, Ayyub alayhi salam avait imploré Allah Azza wa Jal que voilà, il est atteint de tels problèmes, ma'ana al-aya, il est atteint de tels problèmes de santé, il a demandé, il s'est orienté vers Allah, il s'est décidé de demander à Allah Azza wa Jal la santé, alors que jusqu'à maintenant, il endurait avec patience cette maladie. Et la maladie d'Ayyub alayhi salam était la pire des maladies qu'un être humain peut connaître. Il avait des plaies purulentes et de ces plaies sortaient des vers. C'est vraiment une ibtila, une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal. Et à travers cette épreuve, ça nous donne une clarté de notre compréhension des choses. Ça nous fait réaliser que lorsqu'on est éprouvé, lorsqu'on est malade, lorsqu'on a des problèmes, ça ne veut pas dire qu'Allah nous punit. Ça ne veut pas dire qu'Allah nous a abandonnés. Et donc, là encore, comme on avait expliqué ça il y a un ou deux jours, notre vision des choses, notre échelle de valeur, il faut revoir. C'est pas que quand je souffre, je considère qu'Allah m'a abandonné à ma maladie. Non, Ayyub alayhi salam a eu la pire des maladies qu'un homme peut avoir. Et plus longtemps que ça, c'est impossible. Combien de temps il a souffert? Pendant 18 ans, selon certains mu'arrikhin, 18 années de maladie sans interruption, à un tel point que plus personne ne pouvait le fréquenter. Ibn Kathir, rahimahullah, explique qu'à un moment donné, son épouse était obligée d'aller travailler auprès des gens pour gagner un petit peu donc la subsistance, parce que son mari était malade. Mais à un moment donné, certaines personnes ont pensé que sa femme peut-être allait atteinte aussi, ça peut être contagieux, donc ils voulaient même plus qu'elle travaille avec eux. Donc c'est vraiment ahwal, situation extrêmement difficile. Mais Ayyub alayhi salam, à un moment donné, il a orienté ses invocations vers Allah Azza wa Jal. Il a voulu demander à Allah Rabbul Izza la santé et Allah Azza wa Jal lui a accordé la santé avec le moyen qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Nous avons également, là on avance un peu plus dans Sourate Al-Anbiya, un verset qui nous rappelle un moment incontournable, un rendez-vous que chaque être humain doit honorer, qu'il le fasse volontairement, qu'il soit prêt ou qu'il ne soit pas prêt. Ce rendez-vous, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ » Allah Azza wa Jal s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam au 7e « Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. » Au prophète d'Allah, sache que personne avant toi fut mortel. Il n'y a pas un être humain qui est venu sur ce monde qui n'a pas connu l'ange de la mort, le rendez-vous avec l'ange de la mort. Afa immitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Toute âme doit goûter la mort. Donc ça, c'est une réalité. C'est un verset qui nous ramène vers les réalités. Ce genre de verset, ikhwan fillah, nous avons grandement besoin de nous en rappeler régulièrement. Régulièrement. C'est comme si qu'il faudrait mettre dans votre portable, vous savez, parfois vous pouvez mettre des rendez-vous, d'accord? Et vous mettez telle heure pour sonner, et quand vous avez un agenda, d'accord? Lorsque c'est le moment, ça sonne. Et je pense qu'il faudrait tous les mois, tous les deux mois, on tape ce verset, on fait sonner. Pour qu'on rappelle que, attention, « Kullu nafsin dha'iqatul maut ». Parce qu'il y a des fois où j'ai l'impression qu'on oublie. Très souvent, quand on nage dans le bonheur, Mais en fait, on se noie. On a l'impression que je nage dans le bonheur, mais on se noie. Il y a des fois où on est tellement pris par nos projets professionnels, on est tellement pris par nos plaisirs, d'accord, qu'on est dans une phase ascendante où on enjoy, on apprécie la vie, où tout nous réussit, où là on décolle, les pieds touchent plus à terre, comme il dit, on est tellement content, on a l'impression d'être intouchable, mais dans ces moments-là, l'être humain oublie la mort. C'est uniquement dans les moments de maladie, de difficulté, que l'homme se rappelle de son rendez-vous avec son Seigneur. Mais les ulama disent, dans les deux cas, il est nécessaire pour l'homme de se rappeler de la mort. Lorsqu'il est dans le bonheur total, tout en sachant qu'il n'y a pas de bonheur total de ce monde, il doit se rappeler qu'à un moment donné, il doit retourner auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et donc, du coup, s'il jouit de ni'am, de bienfaits, il ne doit pas oublier que la mort est synonyme également de retour auprès d'Allah et de retour des bienfaits aussi. Qu'à un moment donné, il doit s'apprêter à répondre de ses bienfaits. Et quand une personne est dans les situations difficiles, dans les épreuves, là aussi la personne doit se rappeler de la mort et réaliser que bientôt je retourne auprès d'Allah. Et donc ces maladies, ces problèmes que je suis en train de vivre seront pour moi source de récompense auprès d'Allah si j'ai le comportement adéquat. Donc autant le rappel de la mort, il est bénéfique pour tout le monde et dans toutes les situations. Il ne faut pas se dire que oui, mais il ne faut pas parler de la mort quand on est jeune et tout, ça démoralise. C'est une réalité. On ne peut pas fuir cette réalité. Nous avons tous autour de nous des exemples de jeunes qui ont 14, 15 ans qui sont morts. Il faut savoir que la mort n'est pas réservée aux vieux. Ce n'est pas que les vieux qui meurent. Malik al-Maut reçoit l'ordre d'Allah Azza wa Jalla de reprendre l'âme d'un jeune qui a 8 ans, qui a 9 ans, qui a 10 ans, qui a 15 ans, qui a 18 ans. Ça, c'est la décision d'Allah Azza wa Jalla. Et après ce verset, lorsqu'Allah Rabbul Izzah rappelle le principe de la mort qui fait partie de la sunnat d'Allah Azza wa Jal. C'est de cette façon qu'Allah a organisé la création. Il y a le cycle, et dans le passage que nous avons lu dans la sourate Al-Hajj, il me semble que c'est dans la sourate Al-Hajj, il y a les cycles de la vie. Ajib, ça, je ne sais pas si on aura le temps de le lire. Comment est-ce qu'Allah crée, Allah Rabbul Izzah, Allah Ta'ala crée l'homme? Ça démarre avec une goutte de sperme qui devient une substance collante, qui devient un caillou. Et ensuite, ça apprend vie. Lorsque le rouh, lorsque l'âme est insufflée, qu'est-ce qui va se passer? Un petit cœur va se mettre à battre. Ça c'est, les scientifiques parlent du miracle de la vie. Nous on a dit que ça c'est la vie qu'Allah Azza wa Jal accorde à partir de rien. Min al-adam. Qu'Allah donne la vie à partir du néant. À partir du néant, Allah donne la vie. Ça c'est quwwatul khaliq. Ça c'est la puissance du Seigneur. Donc, dans une même soirée, enfin, on peut appeler ça une soirée, dans une même soirée de lecture, on peut parler de la réalité de la mort, et quelques unités de prière après, on parle du cycle de la vie. Et tout ça, ça se trouve dans le Coran. Ça, c'est la richesse de notre livre. Le verset qu'on a vu avant-hier, Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. C'est le mu'min, il prend le temps de lire et d'écouter le Coran, Wallahi al-Azim. Il trouve tout ce qui lui est nécessaire pour sa vie de ce dunya et pour le akhira. Là, il trouve la réalité de la mort, ça le rappelle. Il trouve également la beauté de la vie. Le verset, ce n'était pas prévu, on avait sélectionné d'autres passages pour le tafsir. Mais lorsque on voit que dans le Coran, Allah Azza wa Jal, alors le verset, subhanallah, s'il me revient, on l'a lu tout à l'heure. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرُ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ. Ce sont là les cycles de la vie. Et lorsque, ça c'est une situation que je souhaite à tout le monde de connaître, la plupart d'entre vous êtes jeunes, alhamdoulilah, ceux qui un jour se marieront, et inshallah ils auront des enfants, on a un jeune papa qui est à ma droite, enfin jeune, enfin, il n'est pas très jeune, mais un jeune bébé, d'accord, s'il pouvait témoigner. Quand madame fait sa première échographie, où on entend le cœur du bébé battre. Waouh! C'est hyper puissant. Hein, Youssouf? Youssouf, combien d'enfants on a là? 18? Hein? Deux? Quelqu'un vient avec 18? Inch'Allah. Les premières échographies, on n'entend rien, parce que c'est juste pour voir est-ce qu'il y a eu fécondation ou non. Mais la première échographie où le gynéco dit, bon là, théoriquement, on entend le petit cœur qui bat. Et donc, il met l'échographie sur haut-parleur. Je ne sais pas si ça s'appelle haut-parleur, mais on entend en tout cas, d'accord. Il met l'échographie, un son que ça résonne dans toute la pièce. Et quand vous entendez ce petit cœur battre, je vous assure que votre gros cœur, là, il bat encore plus vite que lui. C'est ajib, cette émotion qu'on ressent. On se dit, mais qui c'est qui a mis la vie dedans? Qui c'est qui a mis le rouh dedans, l'âme? Vous savez, l'âme, c'est quelque chose qui est inconcevable. Quand il pose des questions à propos de l'âme, ça c'est Allah seul qui connaît. C'est un concept, en guillemets, que les scientifiques ne peuvent pas comprendre. Ils vont essayer de comprendre c'est quoi la vie, c'est quoi la mort, qu'est-ce qui différencie un corps vivant d'un corps mort, c'est quoi cette énergie, c'est de l'électricité, c'est une connexion entre les neurones, c'est un assèchement ou non assèchement des neurones. Ils vont essayer de trouver mille et une définitions. Mais quand Allah Azza wa Jal dépose le ruh, demande à l'ange de déposer le ruh, et quand Allah envoie un autre ange qui est Malik al-Maut reprendre le ruh, ce sont là des choses qui ne sont pas sous contrôle et que personne ne peut arrêter. Imagine une personne qui est riche, qui est puissante et tout. Il dit, voilà, je suis en phase terminale, je vais mourir, mais je ne veux pas mourir. Il appelle tous les gardiens, les vigiles, tout ça, dit, restez près de la porte là, d'accord, laissez pas, Malik al-Maut entre, je ne veux pas mourir. Qui peut empêcher? Malik al-Maut, il prend ton âme comme ça, devant ta famille, ta femme, tes enfants, tes gardes du corps, et ainsi de suite. Kam min moulou, combien de rois sont morts sur le trône, combien de rois sont morts dans leur palais? Ça c'est, Qadrat d'Allah Azza wa Jal. Donc, pour ne pas qu'on se perde non plus, le miracle de la vie, subhanallah, on pourrait en parler également lorsque le médecin, le gynécologue, lorsqu'il fait l'échographie et il te dit que voilà, là on va voir son petit cœur, voilà, et puis voilà, on va vérifier les reins, voilà, il y a un qui est là, il y a l'autre qui est là, et bref, il passe d'organe en organe, chaque partie du corps, et tu te dis, et intérieurement, tu te dis, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Quand il dit, on va voir, est-ce que ça c'est normal? Il dit, oui, c'est bon, monsieur, rassurez-vous, c'est normal. Qu'est-ce qui sort? Alhamdulillah, louange à Allah. Moi, je n'ai pas fait une demande, moi. Je n'ai pas envoyé un préavis. Voilà, j'aimerais idéalement avoir un bébé constitué de cette façon, avec un cerveau, deux petits bras qui bougent, les os, les articulations. Parce qu'après, il faut penser à tout. Les 10 doigts. Et les 10 doigts, combien d'articulations? Combien de phalanges? N'oubliez pas de demander des ongles aussi. D'accord? Et ainsi de suite. Qui pense à tout ça? Allah Azza wa Jalla te donne un enfant, il naît, il pleure, il crie, il est en bonne santé, kamil, il ne manque pas une pièce. Le rétroviseur est là, le pare-brise est là, le jantalu est là, tout est là. Tout est là, mashallah. Hada khalqullah, création d'Allah Azza wa Jalla. Et cette création est parfaite. Cette création, elle est parfaite. Ça, c'est la création d'Allah Azza wa Jalla. L'être humain se coupe, je passe à autre chose. Vous vous blessez, qu'est-ce qui se passe? Ça saigne. Qu'est-ce qui se passe quelques instants après? Ça coagule. Dis le terme scientifique, mon ami. Ça s'arrête. Coagulation. Qui c'est qui a décidé que c'est coagulation? Est-ce que tu as... Vite, je rentre dans mon fichier. J'active dossier coagulation pour telle zone. Et ça coagule. Tu n'y penses même pas. Tu es blessé, tu ne savais même pas que tu avais une blessure là. Ça cicatrise. Le sang, comment il appelle ça? Coagule. Et ça s'assèche. La plaie se referme, et avec la coagulation, il n'y a plus de microbes qui rentrent, et c'est parfait. Votre voiture, quelqu'un, vous vous garez, comme certains imams ici se garent sur les trottoirs, n'importe comment, je parle de moi, d'accord? D'accord? Quelqu'un passe, il abîme votre voiture, il raye votre voiture. Est-ce que la carrosserie va se refermer, va revenir normal? Il n'y a pas ça. Ça, c'est peut-être voiture de Terminator ou de Robocop. Mais les nôtres, non. Il n'y a pas de... Subhanallah, l'insan, la création d'Allah, umouman, tout être vivant possède ses capacités et tout ça c'est la qudra d'Allah Azza. Donc on a lu, c'était pas prévu, mais on a lu des versets qui parlent de la création. On a lu là des versets dans la Sourate Al-Anbiya 34-35 qui parlent de cette réalité. Kullu nafsin dha'iqatul maut, c'est un rappel important pour le croyant. Et à la fin du verset, Allah Azza wa Jalla dit wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitna wa ilayna turja'un. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, c'est-à-dire à titre de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. Ibn Kathir rahimahullah dit à travers ce verset, nous voyons qu'Allah Azza wa Jalla taratan ay nakhtabirukum bil-masa'ib taratan وبالنعم أخرى لننظر من يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن يقنط. Dit que on vous éprouvera par des difficultés, par des épreuves parfois, et parfois par les moments de bonheur. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. Les deux, ce sont des épreuves. Les difficultés, les malheurs, les maladies, on a compris que ce sont des épreuves. Ou le khair également. Allah vous donne. Tu as eu un travail. Tu commences à gagner de l'argent. Tu gagnes bien ta vie. Tu t'en sors. Tu as des économies. Et c'est super, tu vis encore chez papa, maman. Donc c'est du cash. Tes 1200 euros, tu les touches net pour toi. Tu fais quoi de cet argent? Est-ce que tu l'utilises dans le bon chemin? Est-ce que tu penses à donner un peu de sadaqa pour faire la baraka? Ou alors, comme il dit Coco, il commence tout à nez. Comment se dit, ben là j'ai de l'argent, je vais essayer de faire telle chose et commencer à aller dans les mauvais chemins parce qu'on a les moyens. Quand Allah Azza wa Jal t'ouvre une porte de bienfait, c'est également une épreuve. C'est pas une récompense. Abadan wallah. Allah ne récompense jamais un homme en lui accordant des bienfaits. Au contraire, on a vu il y a quelques jours encore que pour chaque bienfait, il y a des comptes à rendre. Donc il y a des fois Allah te donne, il y a des fois Allah te prive. Dans les deux cas, ce sont là des épreuves. Et ça nous rappelle le hadith que le prophète dit que la situation du croyant est extraordinaire. Lorsqu'Allah l'éprouve, fait preuve de patience, c'est là un bien pour lui. Et lorsqu'Allah lui accorde des bienfaits et qu'il fait preuve de reconnaissance et de remercier Allah, c'est également un bien pour lui. Dans toutes les situations, le mu'min se doit de se retourner vers Allah Azza wa Jal. Voilà. Donc, un verset. Bon, ça c'est un verset qui va nous ramener vers une autre thématique, c'est l'histoire de Al-Mizan, la balance, le jour de Qiyam. On va parler de ça, puis on va conclure, Inch'Allah. On est à quelques versets plus loin, versets 46 et 47. On a mawazin al-qista liyawm al-qiyam, fala tuzlamu nafsun shay'a, wa in kana mithqala habbatin min khardal. Ataina biha wa kafabina hasibin, verset 47, au jour de la résurrection. Une description donc de l'au-delà. Nous placerons les balances exactes. Ça, c'est une des épreuves du Akhira, al-Mizan. La pesée des actions est également donc une des étapes les plus difficiles, une des étapes les plus lourdes pour l'homme et une des étapes les plus angoissantes. Et tout ce que vous pouvez imaginer comme stress, comme angoisse de ce dunya, ben c'est incomparable avec les angoisses de l'au-delà. J'ai déjà vu des personnes dans des situations de stress, des situations que nous avons nous-mêmes vécues peut-être. D'accord? Imaginez, ou alors pour ceux qui l'ont déjà vécu, rappelez-vous, d'accord? Vous avez fait un scanner. Vous faites la radio, vous faites, d'accord, l'imagerie. Ensuite, vous dites d'aller attendre dans la salle d'attente. Vous attendez. Le temps qu'ils ont l'image, ça passe sur écran, CD, que le radiologue puisse lire. Ensuite, il vous appelle. 30 minutes après, il vous rappelle. Pendant ces 30 minutes-là, à quoi tu penses? Tu stresses, max. Tu penses que là, le scanner, en général, le scanner, elle la protège, mais qu'est-ce qu'on risque de trouver avec un scanner? Tu meurs, un cancer, un truc comme ça, d'accord? On la protège, quelqu'un fait un scanner du cerveau, un scanner de trucs comme ça, et il y a un petit souci, et que donc le docteur lui demande de faire un scanner pour voir si, voilà, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il y a exactement. Donc là, quand le radiologue te dit, c'est bon, monsieur un tel, revenez, restez là, patientez, on vous appelle dans 30 minutes. Wallah, il a dit, pendant ces 30 minutes-là, tu vois ta vie défiler. Et tu te dis qu'en fonction de ce qu'il va me dire, soit ma vie est foutue, ce qui va m'annoncer que j'ai un cancer, et donc, il faudra rentrer dans un cercle interminable de radiothérapie, de chimiothérapie ou de situations terribles. Peut-être que je vais en sortir, peut-être que je vais mourir. Ou alors, il me dit que tout va bien. Et là, c'est le grand soulagement et je reprends ma vie normale. C'est ce moment de stress. Chaque personne a peut-être fait ce genre d'examen. Ce moment de stress extraordinaire. Mais ça, c'est autre moment de stress aussi. Madame, déposez madame à l'hôpital pour l'accouchement et tout. À un moment donné, il dit au papa, vous attendez, et puis on vous appellera dans un instant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ma femme n'est pas déjà morte? Est-ce que l'enfant n'est pas mort déjà? On ne sait pas, il y a plein de choses qui se passent par la tête. Là, tu angoisses, tu stresses, tu te ronges les ongles et tout. Tu lis, tu fais les dhikr, tu fais doua, beaucoup de doua, comme tu n'en as jamais fait. C'est hyper stressant. D'accord? Tu vas passer un examen, moins angoissant. Un oral, d'accord? Ou un entretien d'embauche, déterminant, d'accord? Tu as plusieurs candidats. Le prochain, c'est à toi. Tu attends. Tu stresses. Tu sais pas. En fonction de cet examen, de cet entretien, peut-être que j'aurai ce job. Et si j'ai ce travail, j'aurai de l'argent. Et si j'ai de l'argent, je peux louer un appartement. Parce qu'il est question d'un CDD, là. D'un CDI. Donc c'est magnifique, c'est une ouverture pour ma vie. Si j'ai l'appartement, je peux enfin poser ma demande en mariage sur la fameuse Aïcha ou Fatima, enfin, parce que le papa avait dit condition, Abdul Karim, condition c'est que tu aies un travail et que tu aies un logement. Là, tu viens demander la main de ma fille. Donc Abdul Karim, notre mascotte de Saint-Clotilde, qui sera notre imam de Tarawih l'année prochaine, Inch'Allah Azza wa Jal, Qulu Amin, de gré ou de force, d'accord. On le posera sur le sajada, et on dira Iqra, d'accord. Donc, il sait qu'il doit réunir ses conditions pour enfin avoir dans ses bras sa princesse. Waouh. Et donc, il y a plein de choses qui dépendent de cet entretien, c'est crucial. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment on est angoissé? Mais toutes ces situations de stress, d'angoisse, là, yumathil, ça n'a aucun rapport avec al-mizan. Quand l'homme voit ses actions posées sur la balance, en fonction de cette étape de la balance, tu sais, est-ce que tu vas dans le paradis ou tu vas passer du temps en enfer par rapport aux péchés qui sont lourds. Qu'Allah nous protège de l'angoisse de cette situation et qu'Allah nous donne la possibilité d'entrer dans le Jannah bi ghayri hisab, sans rendre compte. Ça, c'est le doua que le croyant doit faire yaoumiyan. Oh Allah, donne-moi l'accès au paradis sans rendre de compte. Bi ghayri hisab. Et dans un hadith, il décrit également que l'homme se présente devant Allah Azza wa Jal, devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal, et il regarde à sa droite, qu'est-ce qu'il voit? Fayanzura. Il voit que ce qu'il a amené comme bonne action et comme péché. Il regarde à gauche, qu'est-ce qu'il trouve? Uniquement ses actions, bonnes et mauvaises. Et il regarde devant, devant il y a le Jahannam. Au cas où s'il ne réussit pas, il y a le Jahannam. Des étapes terribles où tu retrouves tes bonnes actions et tu en remercies Allah Azza wa Jal. En même temps, tu regrettes. J'aurais dû faire plus pour avoir plus de hasanat. Et tu vois également les péchés. Et ça, c'est les remords. Pourquoi est-ce que j'ai céder à la tentation de Shaitan, pourquoi j'ai écouté mes amis qui m'ont amené vers ces endroits, qui m'ont amené vers les boîtes de nuit, qui m'ont demandé, qui m'ont encouragé à boire, à fumer, à faire telle chose. Là, l'homme regrette ses péchés, ses erreurs, ses bêtises. Dans un autre verset, ça c'est au début, il dit que, subhanallah, si le verset me revient, tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Quand l'homme, en ce sens, voit les péchés, il aurait souhaité qu'il y ait une distance. Je n'ai pas les termes de la traduction exacte. « Amadam ba'id » a une grande distance entre lui et ses péchés. C'est-à-dire que dans ce monde, tu rêves de ça. On rêve, on dit « Quand Ramadan finit, je retrouve enfin ma copine, je retrouve enfin mon petit joint, je retrouve enfin la villa, d'accord, Saint-Gilles, je astaghfirullah, tout wilay. » L'homme aime ses péchés. Parce qu'il trouve un plaisir, mais c'est un plaisir qui vient du diable, il te fait croire que c'est bien. Le jour de Qiyama, tu aurais souhaité qu'il y ait une distance, pourrait dire, entre l'Occident et l'Orient, toi et ce péché. Tu aurais souhaité que jamais tu ne connaisses ce péché de ce dunya. Parce que quand on se retrouve dans le tribunal d'Allah et qu'on ramène ces péchés, là on se dit qu'on a vraiment mal négocié notre vie et qu'on a pris, les mauvaises décisions. Voilà. On va s'arrêter là pour ce soir, Inch'Allah, amplement suffisant. Qu'Allah Rabbul Izzah donne la possibilité de comprendre et d'avoir la clairvoyance, de comprendre comment est-ce que la vie fonctionne, que ce sont les actions que nous devons nous efforcer de faire, les bonnes actions. Nous devons absolument rester éloignés des péchés sans limite de temps. Bien inconscient, cette personne qui se dit « Je mets mes péchés sur pause durant le mois de Ramadan avec l'intention de reprendre après le mois de Ramadan. » Cette personne, son tawbah n'est pas accepté par Allah parce qu'il manque la sincérité et l'intention ferme d'arrêter. Bien inconscient également, celui qui se dit « Pendant Ramadan, je viens tous les salats de Fajr. Mais après Ramadan, c'est autre chose. » Akhifillah, Allah Azza wa Jal ne t'éprouve pas d'un Ramadan à l'autre. Quand les actions sont mises à la balance, il n'a jamais été dit qu'il y a un ange qui vient qui prend les actions du Ramadan. Là, wallah, c'est toute ta vie, chaque instant de ta vie qui est examiné, qui est scruté, et chaque action bonne comme mauvaise qui meuble chaque instant de ta vie, depuis que tu es balé jusqu'à la mort, seront mis sur la balance. Donc, à nous de comprendre que notre rendez-vous est avec Allah Azza wa Jal, et que ce rendez-vous passe d'abord par Kullu Nafsin Dha'iqatul Maut, ensuite les étapes de l'au-delà, qu'Allah nous permette de nous réveiller. C'est important. C'est le plus important, c'est pas de se donner à fond. Durant ce mois, on fait tahajjud, on fait tarawih, on jeûne, on prie, on fait la lecture du Coran, le dhikrullah, on est là à fond. Alhamdulillah, ni'ma. C'est déjà une bonne chose. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'y aller bien comme il faut dans le Ramadan et ensuite de trouver un rythme de croisière et de rester dans les bonnes actions. Et tout ce qu'on a pu, alhamdoulilah, arrêter comme péché durant ce mois, ben on les arrête définitivement. Quand on donne cette qualité, nous donne tawfiq de prendre cette direction. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Alhamdulillahi rabbil alamin.